Sachez, monsieur Molière, que je vous parle sous le sceau du secret le plus absolu.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Je montrerai ma tête au peuple, alors vaut la peine.
C'est une émission qui s'appelle Hit Parade, la parade des succès.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine, bonjour. Jean-Luc, David.
Bonjour Stéphane.
Et Stéphane. C'est Gavin, Clément et Ruiz qui est avec nous aujourd'hui pour nous emmener loin, très loin, n'est-ce pas?
Exactement, oui. Bonjour.
Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter. En compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque mais qui cependant ont un point commun.
Repentir.
Et oui, vous l'entendez, aujourd'hui on réunit des repentis, ou presque. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. A commencer par le pilote américain Claude Heatherly, ou la légende du héros repenti qui, après avoir participé au largage de la bombe atomique sur Hiroshima, a fait son mea culpa. Et a surtout voulu payer cette attaque que la presse lui a attribuée. Puis lui s'est repenti aussi. Il fut même le premier à dénoncer Cosa Nostra, le mafieux Tommaso Buscetta, qui ne s'est pourtant jamais considéré comme un repenti, mais qui a quand même tout balancé, hein, et permis le maxi-procès qui s'en est suivi en Italie. Et après les morts, le vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, oui, vous êtes vivant, on sait, mais qui allez dresser le portrait de notre troisième personnage, un repenti qui a eu un peu de mal à le formuler.
Oui, un super-héros qui a perdu son costume, ou plutôt le concernant sa combi. Hein. Je vous raconte l'ex-cycliste Lance Armstrong, banni à vie et déchu de 7 titres du Tour de France, après avoir été contraint d'avouer d'avoir eu recours au dopage. Oui, il l'a reconnu. Et franchement, c'était pas gagné.
Eux, on en est sûr, ils ne se dopent pas. Bah, sinon, c'est vrai, ils seraient un peu plus vifs quand même.
mais la méchanceté de cet homme, c'est pas possible.
Mais c'est vous qui me l'avez soufflé.
Déjà.
Ce sont donc nos chroniqueurs. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bah, dites donc, Stéphane, j'espère que vous ferez votre mea culpa pour ce genre de propos extrêmement diffamatoire.
Oh, diffamatoire.
Alors, oui, si, tout à fait. Non, mais on n'est pas très vif. Vous allez voir si on n'est pas vif. En tout cas, le synonyme de faire mea culpa, c'est faire amende honorable. Et jusqu'à la Révolution française, qui a mis un terme à ce genre de pratique étrange, tout condamné devait faire amende honorable. Robe de bure, corde au cou, cierge géant, tels étaient les instruments du repentir.
Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent les siennes, David Castillo-Lopez. C'est quoi ?
C'est les bouchons d'oreilles, les choses qu'on met dans ses oreilles pour ne pas avoir à entendre les autres, ou alors ne pas avoir à entendre le marteau-piqueur qu'on utilise, ou pouvoir mieux dormir le soir.
Les boules qui
voilà.
Mais ce que vous mettez quand nous on parle.
Exactement. Mais qui est une marque. Donc en fait, voilà, on a pas
bouchons d'oreilles.
Généralement, les bouchons d'oreilles.
Parce que bouchons d'oreilles, c'est aussi ce que votre ORL, si vous voulez, est en train de chercher, qui est en cire.
Tout à fait. Et qu'on peut aussi enlever soi-même. Mais il paraît que c'est dangereux de le faire soi-même.
Il n'y a que des mots latins dans notre émission du jour. Les boules quies, la quiétude, la quiété, le cérumen, décidément.
Vous envoyez dur avec tout ça.
Là, c'est sûr qu'on touche un très jeune public.
Mais oui, bien sûr.
Le cérumen.
Oui, cérumen.
Pardon.
Les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre. Ça s'est passé dans le passé, mais c'est toujours présent dans le présent. Aujourd'hui, on remonte au XIIIe siècle, au Pérou, à une époque où le peuple Huros cherchait à fuir les Incas. Et ils ont trouvé une solution, Gavin.
Oui, c'est ça. Ils se sont installés sur des îles en roseaux qu'ils ont confectionnées eux-mêmes. Et ils en ont fait carrément des îles flottantes, tout en roseaux. Ils vivent dans du roseau. C'est complètement fou. Ah, et c'est au bord du lac Titicaca.
Ça m'a toujours fait rêver, ce nom.
Ça vous a fait rire, surtout. En plus, le peuple Huros au lac Titicaca.
Oui, j'ai pas osé relever, mais je savais que vous le feriez.
Mes amis, quelle époque, c'est tout à l'heure, vers 17h45.
Vous avez tout dit, Stéphane ?
Je crois, oui.
Non, écoutez.
Ah oui, oui, oh oui, ce moment dans l'émission, vous tentez avec une mauvaise foi certaine de démontrer que mes connaissances en histoire sont plus limitées que celles de Clémentine, oui, je vois.
Oui, c'est ça, c'est Bern to be Alive, un quiz qui n'a souvent d'historique que le nom. Ça sera dans moins de 45 minutes.
C'est bien que vous le reconnaissiez. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Il était un officier de l'armée américaine. Il est entré dans l'histoire comme le pilote d'Hiroshima, ce qu'il n'était pas. Bien qu'il ait été ce jour-là, qui a aussi marqué le peuple japonais, le monde entier même, et sa vie et son esprit aussi, à tout jamais. Je vous raconte un pilote repenti, ou qui a bien voulu le faire croire. Claude Heatherly. Nous sommes en août 1945 au sud du Japon. La matinée est douce, le ciel est clair et le jeune Keiji Nakazawa, 13 ans, discute avec la gardienne de son école lorsque, vers 8 heures, des passants avertissent que des B-29 sont dans le ciel. Les B-29, ce sont ces bombardiers américains auxquels tout le monde s'est habitué. Oui, cela fait des mois que de nombreuses villes japonaises sont pilonnées par les États-Unis qui veulent en finir avec la Deuxième Guerre mondiale. Hitler s'est suicidé, l'Allemagne a capitulé, le monde est presque en paix. Il ne reste alors qu'à lâcher un déluge de feu sur le Japon pour solder ce conflit meurtrier. Pourtant, Keiji Nakazawa, lui, est un peu loin de tout cela dans sa petite ville de province. Depuis des mois que les avions la survolent, rien, pas une bombe, pas un tir n'a résonné. La population se sent comme étrangement protégée. Ce matin du 6 août, les sirènes ont bien retenti, comme souvent, mais le bombardier aperçu en altitude est parti. Alors, une heure après, juste avant 8 heures, l'alerte a été levée. Donc, quand les B-29 apparaissent, Keiji ne s'inquiète pas plus que cela. Mais à 8h15, une immense lumière l'éblouit. Une sorte d'éclair en forme de boule extrêmement blanche en son centre, plus blanche que tout ce qu'il a jamais vu. À l'extérieur, la boule prend des couleurs étranges, une sorte de bleu qui vire à l'argenté. Keiji n'entend pas de bruit, il voit juste du blanc, que du blanc. Et d'un coup, du noir. Quand il ouvre les yeux, il est au sol. Les murs de l'école sont comme tordus et la gardienne est à plusieurs mètres, par terre, toute noire elle aussi. Une ou deux secondes plus tard, en ressentant un choc violent derrière la tête, Keiji tombe. Puis la chaleur brûlante l'enveloppe et tout flambe autour de lui. Les toits, les murs des maisons. Keiji court avec d'autres et se réfugie dans un bassin pour se protéger des débris ardents qui volent et retombent au sol. Keiji a mal, mais il survivra. Ce jour-là, pourtant, beaucoup mourront. 200 000 personnes, peut-être plus, c'est difficile à dire. Elles ont toutes eu la malchance de se trouver là, à Hiroshima, la première ville à connaître l'effet d'une explosion nucléaire et la lueur de cette étrange lumière. À bord d'un B-29, 12 hommes l'ont vu aussi, cette lumière, notamment Paul Tibbets, le commandant de l'avion nommé Enola Gay qui vient de larguer la bombe atomique. Ils ont aussi senti l'onde de choc puis sont repartis vers la base de Tinian dans les îles Mariannes, à quelques 2500 km de là. Claude Heatherly, lui, ne l'a pas vu cette lumière et n'a pas senti d'onde de choc. C'est pourtant bien son avion qui avait déclenché l'alerte à 7h du matin. Mais il est reparti et à 8h15, il était déjà loin. La mission de l'équipage qu'il commande consistait à analyser les conditions météo au-dessus des cibles. Les nuages étaient trop nombreux à Nagasaki, mais sur Hiroshima, tout était clair. « Je conseille de bombarder l'objectif », confirma-t-il dans la radio. Son conseil a été entendu, son objectif atteint. Heatherly est déjà rentré à la base depuis longtemps lorsque le Paul Tibbets et l'équipage d'Enola Gay atterrissent pour être immédiatement décorés de la croix de guerre devant les caméras. Heatherly aura lui aussi une médaille, mais moins prestigieuse. Il n'était pas au cœur de l'action. Les jours suivants, il ne se sent pas bien. Il parle peu. La fatigue de la bataille, comme disent les médecins. Il pense à ses enfants et sa femme au Texas, pour qui, quelques semaines avant, il inventait des aventures dans ses lettres, lassé qu'il était d'attendre une mission qui n'arrivait jamais. Cette fois-ci, il a de quoi raconter. Mais il n'en a pas envie. Il n'en a pas la force. Trois jours après, l'armée américaine lâche une autre bombe atomique sur Nagasaki. Jumelée à l'invasion soviétique, elle aura raison des velléités du Japon. L'Empire capitule, la guerre est finie. Mais l'âge atomique a commencé. À peine un an plus tard, Claude Heatherly vole à nouveau sur le Pacifique aux manettes d'un B-29 au-dessus de l'atoll de Bikini où l'armée teste ses nouvelles bombes nucléaires, sans victime cette fois-ci, pas directement en tout cas. Il passe après les explosions pour des relevés. Sa vie de militaire est décidément liée à cette nouvelle arme. Mais Heatherly est finalement démobilisé en 1947. Il a moins de 30 ans et rentre chez lui au Texas. Pendant que ce qu'il reste des habitants d'Hiroshima tente de soigner les séquelles, Claude, lui, a du mal à se remettre dans sa vie. Il trouve un petit boulot pour une compagnie pétrolière, mais il n'a pas le cœur à l'ouvrage. Il boit, il perd de l'argent au poker. Tout part à volo avec sa femme, elle finit par partir. Il ne garde aucun travail et sa pension de vétéran ne lui suffit pas. Est-ce pour cela qu'il commence à encaisser des faux chèques et à commettre des petits délits ? Certainement. Le pilote qui ne vole plus tente de mettre fin à ses jours en 1950. et commence alors une longue décennie d'aller-retour dans le dispensaire psychiatrique de Waco, réservé aux anciens soldats, quand il ne passe pas par la prison, quand il se fait rattraper par la patrouille. Le 18 mars 1953, il est transféré justement de l'hôpital de Waco à la maison d'arrêt de Fort Worth, où il doit être jugé pour le braquage de deux bureaux de poste. Sur le trajet, il discute avec le shérif. Ils faisaient tous les deux partie du groupe 509 de l'US Air Force, celui des bombardiers atomiques. Un journaliste du coin avance l'histoire et rencontre Claude Herzerli pour rédiger un article. Le 20 mars, on peut lire en une du Star Telegram un héros de la Seconde Guerre mondiale en difficulté, le pilote qui a largué la première bombe atomique mise en prison par un ancien frère d'armes. Si le journaliste n'est pas très à cheval sur l'exactitude des faits, il livre dans les articles suivants l'explication aux méfaits du vétéran. Claude Heatherly est poursuivi par Hiroshima. Les articles s'enchaînent à travers les États-Unis. En ces temps de guerre froide, le patriotisme est une vertu cardinale et le cas du major Heatherly fait grand bruit. Dans la presse, et même un téléfilm diffusé en 1957, se dessine le tragique destin du héros englué dans ses remords. Faute d'être reconnu coupable du plus grand des crimes, celui d'avoir aidé à tuer depuis les airs des centaines de milliers d'innocents sur le sol japonais, il en vient à enchaîner les délits pour que la société le juge enfin pour quelque chose, pour se repentir du plus grand des crimes. Un article de 1959 attire l'attention du philosophe allemand Günther Anders, qui s'intéresse au devenir de l'homme dans l'ère nucléaire. Touché par l'histoire de Claude Herzerli, il lui écrit, et une correspondance débute. Dans des dizaines de lettres, les deux hommes dissertent sur l'avenir du monde à l'époque de la technologie meurtrière et sur le bien fondé de lutter contre la propagation des armes atomiques. Claude Heatherly raconte comment, depuis ce jour d'août 1945, il ne songe plus qu'à œuvrer pour la paix. Il explique son comportement antisocial comme révélateur de ses convictions et comment on préfère le juger pour ses petits méfaits en refusant sa culpabilité dans Hiroshima pour mieux masquer la responsabilité collective de la société. Günther Anders le voit comme un modèle, un symbole du futur, selon ses mots. Mais toutes les voix ne s'accordent pas, notamment celle d'un biographe qui considère que les remords d'Herzerli sont bien tardifs et que son sentiment de culpabilité vient surtout répondre à ce que d'aucuns comme Günther Anders attendent de lui. Son seul regret serait de ne pas avoir été l'homme qui a vraiment largué la bombe, de ne pas être le vrai héros en somme. Il est certes traumatisé par la guerre comme beaucoup de soldats, mais jouit surtout d'une confortable pension depuis que ses problèmes psychiatriques sont reconnus. Heatherly serait un opportuniste plutôt qu'un repenti. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il est l'un des seuls militaires engagés dans la mission atomique à exprimer publiquement des regrets. Paul Tibbets, qui largua la bombe sur Hiroshima, dira lui et redira que cela ne l'empêchait pas de dormir. Quant au président américain Harry Truman, qui en donna l'ordre, lorsqu'un journaliste lui demande un jour quel était le plus grand regret de sa vie, il répond « Ne pas m'être marié plus tôt ». À chacun ses regrets, donc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Claude Heatherly avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un journaliste et écrivain qui lui consacre son dernier livre « La revanche des orages » qui vient d'être primé au festival Les Écrivains chez Causac Saint-Brice. Bonjour Sébastien Spitzer.
Bonjour Stéphane.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire de Claude Heatherly, le fou serviteur d'une cause, le héros repenti, l'homme qui aurait mis en scène sa repentance pour construire sa légende? Tous ces éléments font selon vous un bon personnage de roman?
L'idée est venue d'une amie, de mon ami qui revenait d'Hiroshima et qui m'a dit, tu sais, de tous ces Keiji dont vous avez parlé tout à l'heure, de tous ces enfants qui étaient en bas, au sol, ce jour-là, il ne reste parfois qu'une ombre. Sur les murs des maisons, on pouvait voir des silhouettes, des ombres de pots de fleurs, des ombres de vieux monsieur, des ombres de silhouettes de personnes passant, une silhouette d'une échelle. Mais l'objet, lui, a disparu, comme tous les Keiji qui ont disparu ce jour-là, qui ont été littéralement atomisés. Et donc l'idée pour moi, au début, est partie de ça, comment raconter l'histoire d'une ombre, l'histoire d'une silhouette, d'un sujet qui n'existe plus. Et je me suis plongé dans l'histoire d'Hiroshima et je suis tombé sur l'histoire de Heatherly. Je suis tombé sur l'histoire d'un homme qui a été écrasé par l'histoire et par le poids de l'habit qu'on a voulu lui faire endosser, le Victory Boy. Je suis tombé sur l'histoire de cet homme qui a voulu dire haut et fort que non, c'est pas une victoire magnifique. Non, c'est pas un moment de gloire. Et il a voulu dire ça au moment du maccartisme, de la chasse aux sorcières, dans ces années 50, 53, 54, où il était interdit de dire du mal de ce magnifique modèle américain qui avait remporté les victoires, parce que c'était faire le jeu des communistes. C'est l'époque de la guerre froide. Et cet homme-là a plié sous cette pression-là. Voilà comment je me suis représenté.
Mais en préambule de la revanche des orages, vous mettez une note où vous dites que vous avez raturé les dates, secoué quelques détails, maquillé des prénoms, mais dans le fond, tout est vrai. Le major Heatherly a bel et bien vécu, et ses fantômes aussi. Qui sont ces fantômes? C'était sa conscience.
C'est comme, vous êtes hugolien, je crois, c'est comme Jean Valjean. Dans La tempête sous un crâne, il est secoué par une idée, il est mordu par un remords. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais pour que la conscience s'éveille, il faut un déclencheur. Et c'est ce fantôme-là, c'est une voix qui va le hanter. Il raconte ça dans sa correspondance avec Gunther Anders et à ses biographes. Il entendait des voix, il entendait une voix, et c'est cette voix-là qui m'a intéressé. C'est la voix de sa mauvaise conscience, effectivement. C'était surtout la voix de ses victimes au Japon.
Clémentine ?
Oui, en fait, on comprend que cet homme-là, douloureux, courageux, vous l'aimez avant même de vous l'approprier comme un personnage de roman. C'est-à-dire qu'en aucun cas, toutes les critiques qui ont pu être faites sur lui, vous ne les écoutez, vous ne les entendez, vous ne les croyez.
Je suis écrivain et je ne suis pas là pour juger. Encore ni l'histoire, ni les hommes. Mais essayer de les comprendre, de mettre parfois à leur place, de me glisser dans leur crâne, dans leur intérieur, dans leur intimité pour ressentir ce qu'ils ont éprouvé à un moment donné. Alors, dire que je prends fait et cause ou que je l'aime ou ceci ou cela, c'est pas tout à fait traduire mon intention. Mon intention était de me glisser dans la peau de cet homme pour essayer de faire revivre ce qu'il avait vécu. Nous aimons ici l'histoire. L'histoire, elle se raconte dans les grandes lignes, parfois, et puis ensuite, elle se raconte par les menus détails et par ceux qui l'ont subi.
Mais il faut l'empathie pour votre personnage.
J'ai de l'empathie, naturellement, pour ceux qui sont défaits.
Claude Heatherly est affecté dans le groupe des bombardiers atomiques assez jeune, mais il ne se rend pas du tout de suite compte que cette arme, si elle est utilisée, va tuer des dizaines, des centaines, que dis-je, de milliers de personnes et provoquer des dégâts irréversibles.
C'est un grand secret. On ne lui dit rien. On lui cache tout. Alors la formule est galvaudée aujourd'hui, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il va s'entraîner pendant des mois et des mois à conduire un nouvel avion qui s'appelle ce B-29, qui est ce monstre des airs, cette forteresse volante. Mais il ne sait pas ce qu'il va transporter. On lui dit, vous allez transporter le gadget. Ils appelaient ça à l'époque le gadget ou le machin. Jamais le mot bombe atomique n'a été prononcé jusqu'au tout dernier moment. C'était le secret le mieux gardé de l'armée américaine jusqu'au moment du déclenchement, du décompte final où Paul Tibbets, le commandant qui va larguer l'avion, a annoncé à son équipage 9, 8, 7, 6, 5 et là, un d'eux aurait dit « Tiens, on va faire joujou avec les atomes ». Ils avaient quand même senti qu'il se passait quelque chose de grave.
Nagasaki et Hiroshima, c'est la fin de la guerre. Et donc, les pilotes sont accueillis comme de vrais héros. Est-ce que d'emblée, dès le début, Claude Heatherly ressent une forme de malaise? Est-ce que c'est tout de suite?
Comme Stéphane l'a raconté tout à l'heure, dès qu'il revient à la base de Tinian, à son retour,
déjà là.
Il va être silencieux. Bel et bien silencieux. C'est-à-dire qu'alors que tout le monde est à la liesse, tout le monde est à ce moment de victoire, on a gagné, ça va être la fin de la guerre grâce à cette bombe, lui s'enferme dans son Quonset, vous savez, ces sortes de longs briques métalliques qui étaient au ras du sol, dans lesquelles dormaient les soldats à l'époque, les Quonset. Il s'enferme là, il ne veut pas sortir, il ne va pas à la fête, il ne va pas participer avec les autres, parce qu'il est mal, parce qu'une idée vient le remuer, parce que quelque chose se passe en lui. Il ne sait pas quoi, c'est impalpable, c'est encore difficile de le définir. Mais c'est le début du remords. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Il est en train de prendre la mesure de ça. C'est la bombe atomique.
Et la tragédie de sa propre vie commence. Parce que là, lors d'un braquage de banque, vous faites dire à votre narrateur, je vous cite, « Cette vie n'a pas de sens, tragédie ridicule, comédie insoutenable. » On voit que là, il est dans une espèce de folie, de no man's land. Pour lui, on lui dit qu'il est un héros, mais il se vit comme un meurtrier. Est-ce qu'il est les deux à la fois? Il est en pleine confusion.
Il est en pleine confusion parce qu'il va à contresens de l'histoire. Vous savez, l'histoire, elle s'écrit toujours par ses vainqueurs. Et là, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais aux dernières heures de la guerre, il s'est passé quelque chose de grave. Donc lui, on a pris conscience et il voudrait le faire savoir. Et il va braquer des banques, braquer des petits comptoirs postaux en laissant son arme sur le comptoir, en laissant l'argent sur le comptoir.
Ah oui.
Et en disant « arrêtez-moi, arrêtez-moi ». Il fait tout pour se faire arrêter, cet homme-là. Et finalement, il va avoir gain de cause, il va se retrouver en tôle. Mais il a tellement fait parler de lui que les autorités vont dire « bon, attention, le Victory Boy, là, est en train de péter les plombs, il est en train de sortir de l'habit qu'on voudrait lui faire revêtir ». Et on va le faire taire d'une autre manière, puisque la prison ne suffit pas. Il va faire des séjours en dispensaire à Waco, chez les anciens militaires, et on va lui faire des électrochocs, on va le gaver d'insuline, et on va essayer de le museler avec cette camisole chimique.
On veut le faire passer pour fou.
On va le museler parce qu'il est persuadé de quelque chose. Mais tout, pour un écrivain, tout l'enjeu que ça représente est splendide, c'est une interrogation de l'histoire. Et cet homme qui est passé pour un fou, aujourd'hui, il parle aux historiens. La voix de cet homme qui dénonçait un acte qu'il considérait comme criminel, elle commence à revenir en écho, en boomerang, à l'oreille des scientifiques, de ceux qui interrogent l'histoire et qui posent la question aujourd'hui de savoir si cette bombe était nécessaire, s'il fallait le faire, oui ou non.
Mais justement, vous parlez de revisiter l'histoire. J'ai rappelé dans mon récit la médiatisation croissante de Claude Hédali qui débute lors de son jugement pour braquage en 1953. Est-ce qu'à ce moment-là commence aux États-Unis, eh bien, est-ce que la figure du repenti et la culpabilité de certains soldats, est-ce que on finit par l'entendre, donc c'est très embarrassant pour l'armée, mais est-ce qu'il y a des gens quand même qui disent « oui, il a quand même raison, c'est pas forcément une victoire sans tâche ».
Oui Stéphane, c'est le début. C'est le début de la remise en question. En 1953, il y a ce braquage dont vous parlez tout à l'heure, les premiers articles qui paraissent. En 1954, on est en plein McCarthy, chasse aux sorcières, il faut qu'il se taise. Il y a Arthur Miller qui sort les sorcières de Salem. On s'interroge sur cette opinion qui brocarde, cette opinion qui tue et qui ne laisse pas parler les autres. En 1955, il y a une première conférence à Genève sur l'opposition à la bombe atomique et à la bombe A et à la bombe H. Il y a un mouvement qui est en train de se lever. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Mmh. Et quelques années plus tard, en 1959, il y a Gunther Anders qui découvre cet article, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui va avoir une correspondance avec Claude Hédali et qui va donner plus de visibilité à son remords, à ses interrogations.
Mais merci beaucoup, Sébastien Spitzer, d'être revenu avec nous sur cet anti-héros repenti. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez et qui vient de paraître, La revanche des orages, qui revient sur le destin, justement, de ce pilote, Claude Hédali, et de sa conscience. Et c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoine, qui vient tout juste de mettre un point d'interrogation final à son quiz qui suivra, n'est-ce pas ?
Exactement, et j'ai préparé une question pour faire briller Clémentine aujourd'hui.
Oh non, si. Elle brille suffisamment.
Une question de sport.
Détrompez-vous, j'ai eu 21 sur 20 au bac sport, j'étais très très bonne en sport.
21 sur 20, on vous a menti.
C'est pas bien de se vanter. Mais avant cela, place à celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous faites amende honorable, il était temps. Enfin, vous nous racontez ceux qui l'ont fait en premier, ça remonte très haut. Une pratique du Moyen-Âge, n'est-ce pas ?
Bah oui, alors je sais bien que vous n'aimez pas le latin et que vous voulez me faire passer pour une vieillerie, un dinosaure, mais permettez-moi tout de même de rappeler à nos auditeurs que quand on parle d'amende honorable, ça n'a rien à voir avec le fruit de l'amandier, mais ça a tout à voir avec son homonyme, l'amende, A-M-E-N-D-E, terme hérité du verbe latin emendo, emendare, qui signifie réparer une faute, corriger, remédier. Amendé. Donc voilà, l'amende honorable, rien à voir avec la peine pécuniaire, j'ai pris un PV, tout à voir avec l'amende morale. Et donc sous l'Ancien Régime, l'amende honorable, c'est une peine infamante qui oblige le coupable à reconnaître publiquement son crime et à demander pardon. Donc, faire amende honorable, par extension, ça signifie faire l'aveu public d'une faute dans l'intention de se faire pardonner. Parfois, c'est une peine qui est donnée toute seule, parce que si vous avez fait une faute bénigne, bon, on ne veut pas la mort du pécheur. Alors, si vous avez, par exemple, juré, dit crénom de Dieu, ventre bleu, etc., allez hop, allez faire amende honorable. Les faussaires, les banqueroutiers frauduleux, donc tout cela, c'est une amende simple. Pour les vrais crimes, les criminels, les régicides, par exemple les frères Donnet, les fameux qui ont couché avec les filles de Philippe le Bel, pour Ravaillac qui a assassiné Henri IV, bon, tous ont fait amende honorable avant d'être exécutés. Ils sont exécutés dans des conditions atroces, mais l'amende honorable, on n'y coupe pas. Donc, pour la bénigne, ça s'appelle l'amende honorable simple ou sèche, et l'autre, l'amende honorable in figuris, encore du latin. Et oui, tous disaient en latin à l'époque. Alors, l'amende honorable...
L'amende honorable ne vous dispensait pas d'une peine plus radicale.
Bien sûr, tout le monde fait l'amende honorable.
Ça serait trop simple,
même celui qui va être zigouillé derrière. Et alors là, comment ça se passe? Le coupable doit être à genoux, nu-tête et nu-pied, en chemise, avec une corde au cou. Et à la main, il tient un cierge de cire jaune qui est d'autant plus lourd que votre faute est grave, naturellement. Sur le dos, il porte un écriteau, commençant par ces mots « Je demande pardon à Dieu, au roi et à la justice ». On note notamment sur l'écriteau ce que vous avez fait. Comme ça, tout le monde est bien au courant. Et on vous conduit en ville jusqu'à l'échelle de justice. Et c'est l'exécuteur de la haute justice qui vous y emmène. Alors, il y a une forme d'amende honorable assez étonnante au Moyen-Âge pour les seigneurs rebelles. Ils étaient généralement condamnés à porter sur leurs épaules un chien mort. Parce que le chien était le symbole de la fidélité. Donc, si vous aviez été rebelle à votre suzerain, à votre N+1, dirait-on aujourd'hui, eh bien, le chien mort symbolise la fidélité éteinte. Et donc, vous aviez votre bougie, votre robe de bure, votre corde au cou et en plus un chien mort sur l'épaule. Si vous refusez de faire amende honorable, vous pouvez dire, moi, je suis pas d'accord, c'est pas moi, je l'ai pas fait, madame. Eh bien, on a l'exemple en 1632 d'un homme condamné à 9 ans de galère. Il a refusé de dire les paroles du condamné. Oui, je demande pardon à Dieu. Hop, condamné à perpétuité. Donc tout ça pour avoir juste refusé de dire « je demande pardon à Dieu, au roi et à la justice ». C'était quand même un têtu, celui-là. Alors à Paris, l'échelle de justice, elle se trouvait au pied de Notre-Dame. Il y en avait plusieurs dans Paris. Quand vous aviez fait amende honorable avec votre cierge, là, vous êtes hissé sur l'échelle et là, vous vous faites canarder d'ordures, des œufs pourris et toutes sortes de trucs pourris qu'on met gracieusement à la disposition du public au pied de l'échelle de justice. Et quand on a bien canardé le condamné, eh ben là, on le mène jusqu'au lieu de son supplice, si c'est vraiment l'amende honorable grave, si c'est un condamné à mort, si vous voulez. Sinon, vous rentrez chez vous après avoir été bien humilié. Mais à ce stade, et c'est ça ce qui est beau dans l'esprit du Moyen-Âge et plus encore, puisque je disais que ça s'est terminé au 18e. Une grâce providentielle est toujours possible. L'idée de rémission, comme le président de la République qui autrefois nous dispensait nos PV, si vous voulez. La grâce présidentielle, ça existe encore. C'est l'idée que la justice humaine, c'est quelque chose, mais Dieu, dans les interstices, peut toujours vous sauver. Et donc, c'est arrivé en 1309, à Paris, le cardinal Eusèbe, parce que si vous croisiez un cardinal par accident, que le cardinal affirmait qu'il était là tout à fait par hasard, eh bien, vous pouviez être gracié. Donc, c'est arrivé en 1309, le cardinal Eusèbe traverse la rue Aubry-le-Boucher et là il croise un criminel qu'on mène au gibet de Montfaucon. Et ben il l'a gracié parce qu'il était là tout à fait par hasard. Voilà un homme qui a dû se féliciter de cette rencontre fortuite. Ça n'arrivait quasiment jamais. Et donc un cabaretier de la rue Saint-Martin était tellement enchanté d'avoir assisté à ça qu'il a fait peindre un chapeau de cardinal comme enseigne de son bistrot, si vous voulez. Et cette enseigne n'a disparu qu'en 1910. C'est quand même extraordinaire de penser qu'à Paris, en 1910, on pouvait encore voir une enseigne ayant un lien direct avec une affaire criminelle vieille de 600 ans et qui avait valu sa grâce à un gars qui allait direct à Montfaucon. L'échelle de justice, elle a été remplacée en 1769 par un carcan à partir duquel on calcula dorénavant toutes les distances entre la province et Paris. Et c'est comme ça qu'est né le point zéro. Donc quand vous allez sur le... Vous ne pouvez pas y aller maintenant.
C'est exactement là, alors.
Oui, c'est là. C'est là qu'était l'échelle de justice. Ouais. Et maintenant, vous avez ce beau petit point zéro qui... Ben enfin, je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller avec les travaux de Notre-Dame, mais vous pourrez y aller bientôt. Bien et vous pourrez prendre un grand cierge et aller faire amende honorable pour tous les points dont vous m'avez privé aussi injustement.
Et dont je vous priverai bientôt.
Merci. C'est Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez bien, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, Jean-Luc Lemoyne tente de prouver à la France entière que je ne connais pas toute l'histoire du monde par cœur. Je vais vous faire gagner du temps, Jean-Luc. Je vous fais un aveu, je me repens. Non, je ne sais pas tout.
Oui, mais je préfère vérifier par moi-même. On va quand même jouer à Born to be Alive. On va commencer avec vous, justement. Nimrod fut, dans la Genèse, le fils de Couche, qui lui-même était le fils de Cham, qui lui-même était le fils de Noé.
Noé, oui.
Voilà, d'où ma question concernant les mamans maintenant. Qui a changé les couches de couches ?
C'est drôle.
Non, c'est pas ça du tout. On va rester sur Nimrod. Premier roi après le déluge, Nimrod va monter au sommet de la tour de Babel et décocher une flèche pour voir si la construction était assez haute pour toucher les dieux. Pour le punir, Dieu lui mit un moustique dans le nez. Vrai ou faux ?
Ah, dis donc, hein. C'est curieux comme on n'a pas retenu les mêmes choses.
J'ai pas retenu ça.
Ah, les moustiques, moi, ça,
non,
ça me parle.
Non, j'ai pas retenu ça, donc je pense que c'est une autre punition que Dieu lui a envoyée. Non, je dirais non.
Allons-y. Vous n'y croyez pas. Oh là, il est pressé en plus. On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Oui, vous avez perdu. En même temps, vous avez avoué avant le jeu, hein, vous ne savez pas tout. La preuve. Non. C'est vrai. Et c'était très cruel car le moustique est allé dans son crâne, provoquant d'intenses maux de tête. Il demandait à tout le monde de lui frapper le crâne pour faire sortir le moustique. Il n'est jamais sorti et a provoqué la mort de Nimrod. L'homme qui a tenté de tuer Dieu a été lui-même tué par la plus petite des créatures, le moustique.
En même temps, oui, c'est une belle morale.
Ouais. Enfin, nous, moi aussi, je trouve que c'est une belle morale, mais j'ai l'impression que Stéphane n'est pas d'accord du tout parce qu'il vient de perdre un point.
Non, mais...
Question numéro 2. Le Deutéronome contient le récit des derniers discours de Moïse aux Israélites. Il peut être considéré comme le cinquième livre de la Bible. Moïse a expressément donné les conditions requises pour être admis dans l'Assemblée du Seigneur. Ainsi, il est écrit noir sur blanc qu'un homme ayant les testicules écrasés sera exclu. Vrai ou faux ?
Je veux dire que ce n'est pas l'essentiel de ce que j'ai retenu du Deutéronome, je m'en excuse. En même temps, pourquoi poseriez-vous la question ? Ça doit figurer.
Parce
moi,
que ça
je dirais. Moi, voilà. Moi, je dirais. Ils sont concernés. Moi, je dirais que il peut y avoir dans l'Ancien Testament des dispositions aussi subtiles sur des détails de cet ordre. Et je ne pense pas que ce puisse être dans le Deutéronome. Je vois pas Moïse en train de parler de ça. Je réponds non.
Vous répondez non. J'ai cru que c'était un oui ou un peut-être. Finalement, c'est un non. On vérifie.
Vous avez perdu.
Donc Moïse descend du Sinaï et parle des problèmes de couches.
Je l'ai eu encore. Il descend de la montagne, la première chose. Que...
Descend alors, de la montagne, le cheval.
Le premier qui a été testicules écrasés.
Oh non, écoutez, franchement.
Les testicules écrasés, non.
C'est non. N'entreront pas au royaume de Dieu.
Et pas que, pas que.
Alors allez-y.
Donc les testicules écrasés ainsi que l'homme à la verge coupée. C'est le chapitre 23, verset 2. Le but était d'exclure les eunuques de tout rôle religieux. D'autres exégètes ont pensé que comme la circoncision était le signe de l'alliance chez les eunuques, il était impossible d'avoir ce signe distinctif et pour cause.
Oui, enfin tout ça n'est pas très clair.
On ne coupait,
hein.
Coupait pas le sexe aux eunuques. On leur écrasait juste les testicules.
Oui, non, mais il y a aussi des...
On les casse, on les...
Ce que je vous explique, c'est que dans ce chapitre, il parlait aussi des verges coupées.
Oui, je comprends, mais on ne coupait pas les verges des eunuques.
Non,
mais on... C'est très bizarre, non,
comme
ça.
À Farinelli, là, on squeeze
les... On trempait dans... Alors, en fait, on ne les écrasait pas, on les trempait dans de l'eau bouillante.
C'est vrai ?
Je vous explique la recette.
Ah oui, oui.
Vous chantez mieux.
Allez-y, Maïté.
Vous chantez plus haut, ouais, en tout cas, mieux. Ah bah, dites donc, Stéphane. J'entrevois.
Mais à quel moment faut-il faire ça ?
Au moment de avant la puberté, évidemment.
Oui, là, après,
sinon, après, c'est trop tard.
Sinon, c'est que pour le plaisir.
Bah oui.
Alors, c'est la question 3. Partons, mon cher Stéphane, rapporter la toison d'or. Partons avec Jason et ses copains.
En colchide.
Oh, bah, écoutez.
Là, je vous écoute, moi, je fais ça.
Non, mais ça va être un cadeau de la maison.
Il y a l'autre qui parle.
Ouais, il y a l'autre qui parle et qui parle trop. Parce que je vous disais qu'on allait partir avec Jason et ses copains rigolos, mais on va partir où ? En colchide ? En colchic ? Ou en colchi ?
Alors, oh, il aurait su le répondre.
Oui, pas sûr.
Colchic dans les...
Ça, on sait que c'est une fleur, par exemple.
C'est ça.
C'est la fin de l'été.
Et cette fleur aussi.
On l'a appris à l'école très tôt. Hein.
Un colchide.
Un colchide, bah écoutez, hein. Elle a un peu spoilé, on écoute la réponse.
Désolé.
Vous avez gagné.
La Colchide était le royaume de Médée et Aétès. Jason est parti chercher la toison d'or afin de récupérer son trône usurpé par son oncle Pélias. On les embrasse tous, on sait qu'ils nous écoutent. Une question pour Clémentine, sera-t-elle aussi brillante ? Coluche disait « Les Français ont pris le coq pour emblème parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. » Eh bien, sachez que Gallus, qui a donné Gaulois, signifie également « coq ». Voici donc ma question. Quelle équipe de sport a mis le premier un coq sur son maillot ? Est-ce l'équipe de France de foot ou celle de rugby ? Et vous remarquerez que là, autant sur Colchide, vous avez des Stéphane, là, il
non,
vous laisse tout seul.
Vous savez, je réfléchis, j'essaie de réfléchir et de réunir mes souvenirs. Je dirais peut-être quand même intuitivement le rugby. Je ne connais pas la réponse, mais c'est ce qui m'étonne parce que je pense que les équipes de, l'équipe de France de foot a existé avant l'équipe de France de rugby, mais je vois mieux l'équipe de rugby adoptant le coq. Donc je réponds rugby.
Vous avez gagné.
Bravo. Bravo Clémentine.
Ça s'est joué à très peu. Le rugby, c'est dès 1905 et l'équipe de foot, c'était en 1907.
Ah bah oui.
À deux ans près.
En effet, oui.
Vous savez ce que ça veut dire tout ça?
Alors allons-y, allez.
C'est la question 5, la question pour vous départager. Merci Uderzo, merci Goscinny. Grâce à ces deux joyeux lurons, plusieurs générations ont beaucoup appris sur nos ancêtres les Gaulois. L'étude des inscriptions antiques a d'ailleurs permis de constater que beaucoup de prénoms finissaient effectivement en X. En 1820, des fouilles dans la Nièvre ont permis de retrouver traces d'un Gaulois dans la ville de Saint-Honoré-les-Bains. Comment s'appelait-il? Plusieurs propositions. Multirix, Biturix, Synergix, Priapix.
Biturix.
J'ai pas fini.
Non, il faut être
J'ai pas fini.
Ah bon.
Elle va se calmer.
Je pensais qu'il y en avait que 4, pardon.
Non. Et œil de perdrix.
Biturix. Je l'avais répondu avant.
Oui, mais
j'ai répondu avant.
Bah,
c'est Biturix, c'est les Biturix qui a donné Biturix, le qui est un cépage de viticole très délicieux.
Mais on le savait, sauf qu'elle a répondu avant monsieur.
Oui, mais parce que moi monsieur.
Bah, oui, mais il n'avait pas fini ses propositions.
Parce que je croyais qu'il n'y avait que 4 propositions.
Elle a triché avec les règles.
Oh, c'est mesquin.
Elle a triché avec les règles. Elle a donné une réponse à son adversaire. Elle est en complète déconfiture. Donc évidemment, c'est Stéphane qui gagne.
Alléluia.
Si. Ça vous apprendra. Je vous remettrai au pas, moi.
Colchique dans les prés, ah oui, bah tiens.
Clémentine.
Irrespectueuse.
Ça n'a pas d'importance, évidemment, qui gagne.
Pas du tout, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Je prends cher hein, quand je perds le quiz, quand je rentre chez moi.
C'est vrai.
Hein,
ah oui, vraiment.
Il y a des gens qui ne vous parlent plus après.
Je fais amende honorable publiquement.
Et bien, on vous retrouvera à l'échelle de justice, à défaut de l'échelle de Jacob. Merci, Clémentine. À demain.
Sachez, monsieur Molière, que je vous parle sous le sceau du secret le plus absolu.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Je montrerai ma tête au peuple, elle en vaut la peine.
C'est une émission qui s'appelle Hit Parade, la parade des succès.
Stéphane Bern.
Et je ne suis évidemment pas seul dans cette émission. Ils sont trois, ils sont à mes côtés. Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Clement et Ruiz. Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Et c'est bien pour cela qu'on les réunit cet après-midi. Nos trois personnages du jour qui ont fait leur mea culpa.
Bon, c'est Gilbert Bécaud, mais je vous rappelle qu'il a quand même volé l'orange, lui. Hein. Toujours pas de culpa.
Après, le pilote Claude Edoli, qui a regretté d'avoir participé au largage de la bombe atomique sur Hiroshima, je vous raconte Tommaso Buscetta, le premier pentito de Cosa Nostra, qui a décidé de briser l'omerta. Quant à vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour, le vivant de l'étape. Un repenti qui a fait moins de mal parce qu'il n'a tué personne.
Enfin, pas comme ça, en tout cas. Je vous raconte Lance Armstrong qui, lui aussi, a fait son mea culpa et a reconnu s'être dopé. Mais ça a pris du temps, vous verrez.
Il faut dire qu'il est passé par la case maladie aussi. Hein.
Oui, il a eu son cancer des testicules, pour être précis.
Ça n'est pas entré dans la...
Non, je vous renvoie au quiz. Il n'aurait pas pu participer.
Ce sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission... Vous retrouverez, chers auditeurs, deux êtres qui aiment prendre leur temps aussi. Oui. Gavin Clement Ruiz, dans Mes aïeux qu'à l'époque, vous nous ramenez au Pérou cet après-midi à la rencontre des Uros. Oh. Des Uros, on dit.
Des Uros, ouais.
Surtout sur le
lac
Titicaca.
Un peuple qui existait déjà au XIIIe siècle et qui continue de vivre sur des îles faites en roseaux.
Exactement.
C'est pas très confortable, dites donc.
Non, mais c'est un peu moelleux quand on marche dessus. Oui. C'est du totora.
Mais ça, c'est solide.
Ah bah ouais, c'est solide.
Non, en fait, c'est pas solide, ils sont tous morts.
Et David Castel-Lopez, vous nous racontez-vous les origines des bouchons d'oreilles?
Oui, voilà, les bouchons d'oreilles. Nous avons en France les boules quies.
Oui, qui nous permettent d'être tranquilles, de pas entendre les bruits extérieurs.
Voilà, qui nous embêtent.
Très bien. Rendez-vous donc en fin d'émission. Mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième repenti du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Le cinéma a fait de lui le traître dans un film qui retrace sa vie. Une vie de mafieux repenti. Mafieux, il l'était au sein de Casa Nostra. Repenti, il ne s'est jamais considéré comme cela. Pourtant, il a tout balancé. Je vous raconte le pentito qui a brisé l'omerta de la mafia, Tommaso Buscetta. Nous sommes le 15 juillet 1984 sur le tarmac de l'aéroport de Rome. C'est un homme en petite forme qui débarque entouré de deux policiers. Son nom, Tommaso Buscetta. L'homme arrive du Brésil où il a passé plus de 9 mois en prison avant son extradition vers l'Italie. Il est un peu pâlot car il a tenté, au moment de son départ, de se suicider en avalant de la strychnine, ce qui en dit long sur le fait qu'il n'était pas pressé de rentrer dans son pays. Or, Tommaso Buscetta a survécu et il est bien obligé de fouler le sol italien qu'il avait fui 4 ans plus tôt lors d'une permission de sortie alors qu'il était incarcéré pour trafic de drogue. Retour donc en prison. Mais avant, un magistrat venu spécialement de Sicile tient à lui parler. C'est le juge Giovanni Falcone qui lutte depuis des années contre la mafia. Ça tombe bien, Tommaso Buscetta est un mafieux. Et les deux hommes se connaissent déjà. Falcone avait fait le voyage jusqu'au Brésil pour tenter, sans succès, il faut bien l'avouer, de lui soutirer des informations. Mais cette fois-ci, les choses ont changé. Et ce jour-là, dans un bureau de la police romaine, Buscetta annonce « Je vais révéler tout ce que je sais ». Et des choses, il en sait beaucoup en effet. Né en 1928 dans un quartier pauvre de Palerme, en Sicile, Tommaso Buscetta s'oriente vite vers une carrière criminelle dans cette île régie depuis des années par des pouvoirs parallèles. Dans les années 1860, la Sicile rurale, tissée de réseaux d'entraide et d'obligeance, a vu émerger le système mafieux autour de la culture et de la vente des agrumes. Des citrons, on est bien vite passé à de vastes trafics de contrebande, puis de drogue, en plus du racket sur les commerces et des collusions avec les pouvoirs publics. Buscetta est devenu un agent haut placé dans les réseaux mafieux entre Sicile et États-Unis, où il s'installe dans les années 1960 sur fond de guerre des clans dans son île natale. Arrêté à New York pour trafic de drogue, il fuit au Brésil avant d'être extradé une première fois vers l'Italie. Lorsqu'il parvient à fuir à nouveau au Brésil en 1980, c'est pour échapper à la prison autant qu'à la deuxième guerre de la mafia qui fait rage pour le contrôle du juteux trafic international d'héroïne. De 1980 à 1983, Palerme se jonche littéralement de cadavres. Les mafieux règlent leurs comptes et s'en prennent à quiconque se met sur leur chemin, qu'il soit témoin, policier, magistrat ou préfet. La population est à bout, écœurée de nettoyer le sang des rues pendant que les autorités publiques passives en ont aussi sur les mains. Cette guerre, c'est le clan de Corleone qui la gagne, aux dépens de tous les autres, notamment celui de Tommaso Buscetta qui perd 2 de ses fils et 10 autres membres de sa famille, une véritable hécatombe. Alors, quitte à tout perdre, autant tout dire. Et pour le juge, tout noter. De mi-juillet à début septembre 1984, du matin au soir, le juge Falcone écrit tout ce que Tommaso Buscetta lui raconte. Falcone et le pôle anti-mafia dont il fait partie sont déjà au courant de nombreux crimes grâce à de minutieuses enquêtes menées en Italie comme à l'international. Mais ce que Buscetta révèle va bien plus loin. Il décrit précisément la structure hiérarchisée de Cosa Nostra, comme se nomme elle-même l'organisation mafieuse. Si l'on avait eu vent de cette appellation dès les années 60, Buscetta, en brisant l'omerta, la loi du silence, lui donne toute sa consistance. Des soldats du bas de l'échelle, aux parrains qui dirigent les familles, l'ordre est quasi militaire pour ces hommes dont l'honneur se joue sur quelques préceptes de dignité, de loyauté absolue et des rituels initiatiques teintés de magie et de religiosité. Au sommet de la pyramide, la cupola, commission suprême, réunit tous les chefs décisionnaires qui peuvent d'un geste commanditer un assassinat ou gérer leur trafic sans avoir à se salir les mains. Selon les mots mêmes du juge Falcone, Buscetta livre la clé de compréhension qui manquait. « J'ai collaboré avec Giovanni Falcone, et dira plus tard Buscetta, parce qu'il est un homme d'honneur. » Une relation singulière se tisse en effet entre les deux hommes qui ont grandi dans les mêmes quartiers populeux et s'expriment avec les mêmes codes, bien que leur vision de l'honneur soit radicalement différente. Car attention, Buscetta ne se repent pas. Il est un homme d'honneur et le restera. En tout cas, c'est ce qu'il dit, ce qu'il affirme, ce qu'il croit. C'est le clan Corleone qui a trahi Cosa Nostra en faisant une violente association de malfaiteurs, là où Buscetta défend une organisation bienfaitrice née, je cite, « pour défendre les plus faibles face aux abus des puissants ». Tommaso Buscetta n'est pas le premier de ceux que la presse nomme repentis. Les textes de loi parlent, eux, de collaborateurs de justice. Dans les années 70, un certain Leonardo Vitale, en pleine crise mystique, s'était rendu aux autorités en s'accusant de meurtre et en livrant des noms de mafieux. Mais on ne l'avait pas cru. Deux semaines après sa sortie de prison, il avait mystérieusement disparu. Cette fois-ci, Falcone et ses collègues croient Buscetta et vont vérifier nombre d'informations pour étayer les accusations et lancer des centaines de mandats d'arrêt en vue du plus retentissant des procès. Le 10 février 1986, dans un bunker géant construit spécialement pour l'occasion près de la prison de Palerme, s'ouvre le maxi-processo. 474 prévenus, dont 119 en fuite, doivent répondre de leurs actes ou de leur appartenance à la mafia, désormais crime en tant que tel. Les audiences virent parfois à la farce, tant les accusés multiplient les outrances pour enliser les débats. Mais lorsque le 3 avril 1986, Tommaso Buscetta pénètre dans le prétoire entouré d'une dizaine de policiers pour le protéger, tout le monde se tait. Certains mafieux espèrent encore qu'il reviendra sur ses dépositions. Ils seront déçus. Buscetta passe presque une semaine à la barre derrière des parois de verre blindées et réitère tout ce qu'il avait dit au juge Falcone. Après 1 an et 10 mois de procès, les verdicts tombent. 360 accusés sont condamnés pour un total de 2665 années de prison. Buscetta repart en Amérique où il bénéficie d'un programme de protection puisqu'il témoigne aussi au cours du procès de la Pizza Connection, réseau qui gère le trafic de drogue aux États-Unis. La mafia a pris un sérieux coup, mais beaucoup de condamnés seront libérés en appel aux grandes dames du juge Falcone qui continue son combat jusqu'à ce qu'il soit tué dans un attentat à la bombe en mai 1992, tout comme son collègue le juge Borsellino 2 mois plus tard. L'Italie est atterrée. Et c'est cet événement qui pousse Buscetta à en dire encore plus, notamment sur les liens entre Cosa Nostra et les pouvoirs politiques. Il participe encore à de nombreux procès avant de terminer sa vie aux États-Unis sous une fausse identité. Tommaso Buscetta décède en 2000 à Miami en ayant pris le temps, dans l'un de ses derniers entretiens avec un journaliste, de critiquer la justice italienne qui, selon lui, comble de l'ironie, accorde trop d'importance à la parole des repentis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Tommaso Buscetta, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste de la mafia italienne. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quelle place occupe au départ Tommaso Buscetta dans la grande organisation mafieuse Cosa Nostra? Dans l'organigramme, il est où lui?
C'est un mafieux extrêmement atypique. Il n'a aucun grade, il va rester soldat toute sa vie. Et pourtant, son entrée extrêmement jeune dans l'association criminelle à 17 ans, sa capacité à tisser des relations avec des chefs mafieux qui deviendront aussi des chefs mafieux et aussi avec toute la sphère légale parce que c'est aussi un très grand entrepreneur qui rapporte beaucoup d'argent. Et le fait qu'il ait beaucoup voyagé et un charisme incroyable va faire qu'il sera, pour ce qu'on appelle le peuple de Cosa Nostra, quelqu'un d'extrêmement important, reconnu comme une espèce de leader, mais à côté de l'organigramme officiel. Mmh. À telle enseigne que lorsqu'il rentre dans le tribunal du maxi-procès, les 300 accusés se taisent. Ils reconnaissent en lui la légitimité du chef.
J'ai évoqué le fait que Tommaso navigue beaucoup entre la Sicile et les États-Unis, va aussi au Brésil. Quelles sont ses missions au sein de la mafia? Il supervise les exportations de la marchandise, il est un peu le ministre du commerce extérieur.
Oui, très jeune, il va au Brésil ouvrir un magasin de vitres parce que son père, c'était le métier de son père, mais ça ne marche pas. Il revient à Palerme pour finalement repartir, et là c'est documenté, au Brésil, mais pas seulement, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et très clairement, notamment dans les années 60, il met en place 2 grands trafics, d'héroïne et de cocaïne, mais à destination des États-Unis. C'est-à-dire qu'il est directement au Brésil, il arrive à trouver de la cocaïne auprès des cartels colombiens, et il arrive à faire venir de l'héroïne d'Asie du Sud-Est, mais c'est pour approvisionner le marché américain. Tout cela fait rentrer beaucoup d'argent, et encore une fois, il a cette capacité entrepreneuriale, déjà, c'est un commerce, la drogue, et deuxièmement, de réinvestir dans l'économie légale, puisque par exemple, il va avoir une compagnie de taxis. C'est très drôle, mais Pablo Escobar fera pareil 20 ans après.
Dans votre livre « La mafia de A à Z », vous expliquez qu'à l'époque où Tommaso Buscetta témoigne, le statut de repenti pour les mafieux n'existe pas. Et vous dites même qu'il est le premier grand mafieux à témoigner au cours d'un procès. Avant lui, personne n'avait jamais osé parler aux autorités légales.
Si, alors d'abord, les mafieux sont de grands bavards, contrairement à ce qu'on croit, mais ils parlent en confidence. C'est exactement comme en France, on donne un ennemi à la police pour qu'il soit éliminé. Il a existé aussi ce qu'on appelle des gens qui voulaient bien témoigner au tribunal, mais ils arrivaient pas vivants. Et puis vous avez rappelé l'exemple incroyable de Leonardo Vitale, qui effectivement, lui, va tout dire, va passer 7 ans dans un hôpital psychiatrique et sera assassiné dès sa sortie au mois de décembre devant sa mère. A contrario, Tommaso Buscetta, puisqu'il est protégé par les Marshall américains, puisqu'il est impliqué dans le trafic de drogue aux États-Unis, il est protégé par la police américaine, et là, va pouvoir arriver vivant au tribunal et effectivement parler. Il va y avoir des confrontations, enfin une, avec le plus haut gradé des mafieux présents au maxi-procès, donc derrière les barreaux. Et là, Buscetta va remporter le combat par KO contre le mafieux le plus haut gradé.
Mais il est le premier repenti. Et pour autant, le terme ne lui convient pas. Il n'a pas l'impression, quand il balance tout au tribunal, De faire son mea culpa ?
Bon alors, moi, le terme de repenti ne me plaît pas non plus, parce qu'il est très religieux, et qu'effectivement, il se repent de rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on demande aux collaborateurs de justice, oui, qui est le terme officiel. On leur demande de dire toute la vérité, de donner tous leurs avoirs, et de tout dire pendant les procès. Donc, il faut comprendre que Buscetta va être le premier collaborateur de justice sans loi italienne, la loi arrivera en 91, mais protégée par les États-Unis. Et on ne lui demande pas de regretter d'avoir assassiné un tel et un tel. D'ailleurs, il sera condamné pour homicide. On sait qu'il a, on sait qu'il a tué. On sait qu'il a fait du trafic de drogue. Il a été condamné pour trafic de drogue. Alors que lui a dit qu'il n'avait jamais fait de trafic de drogue. Vous comprenez bien que c'était le premier repenti, qu'il n'était pas protégé par la loi italienne et que donc, très clairement, on lui a permis certains mensonges. Aujourd'hui, si vous dites que vous n'avez pas fait de trafic de drogue et que vous faites du trafic de drogue, vous perdez la protection. Donc, c'est quand même un personnage atypique, historiquement important, c'est le premier.
Et en quoi est-ce que on dit que Tommaso Buscetta permet vraiment d'expliquer concrètement et pour la première fois ce qu'est la mafia de l'intérieur ? Ça a été une aubaine pour les juges, mais qu'est-ce qu'il a raconté alors ?
Et il a raconté, parce que quand vous étudiez un phénomène criminel, si vous n'avez pas un témoignage de l'intérieur, vous avez juste des policiers qui écoutent à travers les portes, les écoutes téléphoniques, les enquêtes patrimoniales, c'est très bien. Mais en tenant compte d'une mafia où la loi du silence était extrêmement puissante, où effectivement on n'avait pas de témoignage de l'intérieur, là on va avoir un décodage. C'est-à-dire que très souvent, on voit bien qu'il y a un meurtre, on sait bien que c'est la mafia, mais quand même on ne sait pas très bien qui, ou si on sait qui, on ne comprend pas bien pourquoi. Et très clairement, l'organisation dont vous parlez, dite pyramidale, même si elle est exagérée, un chef, un sous-chef, des soldats qui obéissent assez aveuglément... Ça va être très bien raconté par Tommaso Buscetta. On va bien comprendre qu'une des spécificités des mafias, et en particulier siciliennes, c'est que les chefs, effectivement, ne participent pas à l'homicide à partir d'un certain moment. Ils donnent des ordres. Mais si vous avez quelqu'un qui dit « j'ai tué sous ordre d'eux » et que vous avez d'autres éléments de preuve, vous pouvez commencer à condamner des gens pour avoir commandité un homicide. Et ça, c'est très difficile dans le crime organisé.
Et est-ce qu'à la suite du maxi-procès de 1986, Tommaso Buscetta, il a été... rejoint par d'autres collaborateurs de justice qui ont accepté de parler.
Déjà dans le maxi-procès, vous avez Salvatore Contorno qui vient témoigner. Mais il n'est pas du tout du même acabit. C'est un tueur bas de gamme, un peu ras du front, qui va venir s'exprimer en dialecte sicilien. Il va falloir amener un traducteur pour faire l'audition, vous comprenez ? Donc, ce n'est pas pareil. Il ne connaît pas les mêmes personnes, la sphère légale, il ne connaît pas les chefs mafieux. Salvatore Contorno va venir témoigner parce que ça fait 3 fois qu'il échappe à une tentative d'assassinat. Donc, ça y est, il a compris qu'il allait mourir. Donc, il vient témoigner. Et après, avant même la loi de 91, vous aurez des grands repentis, Salvatore Cancemi, Madonia, qui viendront témoigner du trafic de drogue, des complicités politiques, avant même la loi. Et depuis, beaucoup de personnes viendront éclairer ce que c'est que la mafia.
Et le réalisateur italien Marco Bellocchio a consacré un film à la figure de Tommaso Buscetta dans Le Traître, qui est sorti en 2019.
Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo.
Est-ce que vous, vous l'avez vu et est-ce qu'on peut le recommander aux auditeurs pour mieux comprendre toute cette histoire ?
Oui, je l'ai vu, je suis bon public, c'est plutôt bien fait, un cinéma un peu moderne, italien, etc. Je le conseille parce que c'est quand même documenté, c'est basé sur la réalité. On en sait un peu plus sur la personnalité intime de Tommaso Buscetta. On voit bien quand même que ce mafieux qui a pourtant perdu ses enfants, étranglés, dissous dans l'acide, en avait vraiment marre et qu'il était... atypique parce qu'il était déjà différent. Il faut comprendre par exemple que un collaborateur de justice un jour a été interrogé par un psychiatre qui lui a dit « Mais pourquoi vous faites tout ça ? Les homicides, la prison, le stress, tout ça et tout. » Le mafieux lui a dit « Vous savez, il y a un proverbe sicilien qui dit « Commander, c'est mieux que baiser. » Parce qu'effectivement, commander donne plus de jouissance que l'acte sexuel. Force est de constater que Buscetta, avec ses trois femmes, lui, n'aimait pas tant commander que ça.
Heureux homme. Merci Fabrice Rizzoli d'être revenu avec nous sur cette figure du repenti qui n'en était pas vraiment un et qui a permis de mieux comprendre la mafia. Je rappelle que votre livre La mafia de A à Z est toujours disponible aux éditions Timbuktu.
Ouais, je m'aperçois que je suis pareil en fait. Commander c'est mieux que baiser, mais moi je commande à manger. Je crois que ma vie est un échec.
Europe 1. Historiquement vôtre. Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz, on réunit des repentis. Après Claude Ezarli et Tommaso Buscetta, vous nous racontez, Jean-Luc, un repenti plus récent, même si lui, il a mis le temps. C'est le cycliste Lance Armstrong.
Tout le monde ment. Tout le monde triche, Stéphane. Ne me faites pas croire que ça vous est jamais arrivé, ça serait un mensonge.
Non, c'est vrai, tout le monde.
Bah oui, alors à des échelles différentes. Moi, je vais mentir en disant que je suis en route pour Europe 1, alors que je suis encore en plein gommage dans ma salle de bain. Stéphane va mentir sur le nombre de personnes avec qui il a couché, alors qu'on sait qu'il existe entre 50 000 et 140 000 personnes issues de la noblesse en France, et qu'on n'appelle pas le marathonien de la particule pour rien. Donc oui, on ment, on dissimule, on embellit, mais globalement, à notre niveau, ça n'engendre pas de grosses catastrophes. Mais dans le cas d'une célébrité mondiale qui est aussi un exemple et un sportif de très haut niveau, ça passe moins bien. Et il a eu beau faire son mea culpa, le cycliste Lance Armstrong a été cancel bien avant qu'on sache ce qu'était la cancel culture. Maillot jaune, pédale, stéroïde, carcinome testiculaire, bienvenue dans le monde du plus gros tricheur de tous les temps. Donc oui, il y a les tricheurs, il y a les menteurs et il y a Lance Armstrong. Après plus d'une décennie à nier avec véhémence qu'il était dopé et à coller un procès à tous ceux qui osaient évoquer le sujet, Armstrong a finalement été affiché en 4x3 sur le mur de la honte. Aucun athlète dans l'histoire ne s'est comporté d'une manière aussi peu éthique. Aucun athlète dans l'histoire n'a jamais grugé le système aussi méthodiquement. Et je m'y connais. J'étais un des premiers à révéler la tricherie d'Olivier Chabaudeau dans Interville. Ouais, et le playback de Plastic Bertrand sur Ça plane pour moi. N'oublions pas quand même que Lance Armstrong a contribué à populariser le cyclisme et les shorts en lycra ultra moulants dans le monde entier. Ses 7 victoires consécutives sur le Tour de France, de 1999 à 2005, et son statut de survivant du cancer en ont fait l'un des athlètes les plus emblématiques et les plus vénérés, au-delà même des frontières de l'univers du sport. Armstrong est né en 71 au Texas. Et dès son plus jeune âge, il excelle en natation et en cyclisme. Sa première course pro, c'est la Clásica de San Sebastián en Espagne, mais il termine dernier. Faut croire qu'à l'époque, toutes les pharmacies étaient fermées. Sa notoriété décolle assez rapidement et il devient le premier Américain à remporter la Flèche Wallonne, une course cycliste belge, comme le nom l'indique. Puis, deux Tours du Pont, une course cycliste américaine, comme son nom ne l'indique pas. À l'été 96, il participe aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il termine sixième au contre-la-montre et quelques semaines plus tard, il termine malheureusement premier au diagnostic du cancer du testicule. Généreuse, la maladie s'est propagée au niveau des ganglions lymphatiques, des poumons, du cerveau et de l'abdomen. À peine un mois avant, Lance fêtait son 25e anniversaire. Mais Armstrong est bien décidé à ne pas laisser le cancer gagner et compte bien poser à nouveau son derrière sur une selle inconfortable. Deux opérations, dont une du cerveau, et moult séances de chimiothérapie plus tard, il est en rémission. Ses docteurs hallucinent. Pour un être humain de moyen, se remettre d'une telle épreuve, c'est déjà improbable. Mais réussir à remonter sur un vélo, ça relève du miracle. Et en 1999, il remporte son premier Tour de France. À son arrivée à Paris, il déclare « J'espère que cette victoire est aussi un message fantastique d'espoir pour tous les survivants du cancer à travers le monde. » Son histoire fait l'effet d'une bombe. Il devient une icône. Il est rapidement assailli de questions sur un prétendu dopage et bien entendu, il nie toutes les accusations. Il est testé positif au corticostéroïde 4 fois, mais fournit une ordonnance antidatée pour échapper aux sanctions. On insiste en lui demandant des précisions.
Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma.
Entre 2000 et 2005, il continue à éclater tout le monde et à remporter la grande boucle. Lens est surnommé le boss, Robocop ou Big Tex.
Salut, c'est Tex, je peux vous faire des vidéos personnalisées.
Non, c'était pas par rapport à l'animateur, c'était par rapport au Texas. À 33 ans, il affiche un palmarès impressionnant de 7 victoires sur le Tour et d'innombrables moments passés avec Henri Sagnier, Nelson Monfort, Gérard Holtz et toute l'équipe de la caravane Cochonou, sponsor officiel du Tour de France. Lens vit sa meilleure vie. En 2009, réalisant certainement qu'il n'avait pas tous ses trimestres, il sort de sa retraite et tente un comeback sur le Tour. Après avoir fini 23e en 2010, il reprend sa retraite en 2011, pile au moment où la chaîne du vélo de la vérité commence à dérailler. Tiens. En effet, Floyd Landis, coéquipier d'Armstrong pendant 2 ans et vainqueur du Tour de France 2006, admet avoir utilisé des drogues améliorant ses performances. Il explique qu'il a commencé à se doper en 2002, sa première année aux côtés de Lens. En juillet 2012, l'agence américaine antidopage accuse officiellement Armstrong d'avoir triché. 3 mois plus tard, il est confirmé que le cycliste sera banni de tous les sports qui sont soumis au code de l'agence mondiale antidopage et que toutes les victoires récoltées depuis 1998 lui seront retirées. Un an plus tard, lors d'une interview chez Oprah Winfrey, il fait enfin son mea culpa pour soulager sa conscience et surtout pour avoir le droit d'être dans Historiquement Vôtre aujourd'hui, en collant à la thématique du jour. Pour être honnête, son mea culpa n'en est pas vraiment un, car Lens ne s'est pas jamais vraiment excusé. Enfin, il s'est surtout excusé de s'être fait gauler. Hein, c'est ça qui l'a contrarié. Il aurait pu tricher et faire profil bas comme tous les autres à l'époque, mais non, par orgueil, ego et compétitivité exacerbée, il a voulu créer ce mythe, cette histoire de super-héros invincible, super-menteur et son multiverse unitesticulaire. Maintenant, il est animateur d'un podcast sur les courses de vélo. Du coup, à notre tour de nous doper pour trouver la force d'écouter ça.
Merci beaucoup Jean-Luc. Je pensais qu'il avait, c'est parce qu'il s'était dopé qu'il avait chopé un cancer.
Alors ça, c'est pas clair, parce que non, officiellement, il s'est dopé après.
Oui.
Mais j'espère pour lui qu'il n'avait pas commencé avant, que c'est pour ça qu'il a eu un cancer.
Et ça aurait dû servir de leçon. Et...
Mais est-ce qu'il était quand même très très fort en vélo? C'est ça qu'on on a envie
Je pense.
Ah bah, de toute façon, oui.
Oui, oui. Mais je pense que le dopage ne fait pas tout. Le Tour de France sans se doper.
Le problème, c'est que souvent, certains se sont réfugiés derrière la télévision en disant « Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a des contraintes télévisuelles.
Il faut que ça aille vite. Là.
Et voilà. S'ils arrivent à 21h, ça n'intéresse personne.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos repentis, ou presque, pour retrouver deux garçons qui savent reconnaître quand ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Heureusement, ça ne leur est jamais arrivé, je crois. Enfin, je trouve que quand même, vous, David, vous vous excusez beaucoup, vous vous repentez énormément.
Oh.
Vous avez le sens de la culpabilité, c'est vrai,
le sens de la culpabilité, mais c'est bien.
C'est bien. Alors aujourd'hui, vous vous excusez d'aimer les bouchons d'oreilles.
Non, ça je ne vais pas m'excuser. J'aime
vous
bien
aimez les bouchons d'oreilles.
Et je suis fier de bien aimer.
Ah oui, vous en mettez pour dormir.
Ça peut m'arriver, oui, tout à fait.
Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, aujourd'hui on remonte au XIIIe siècle avec vous, Gavins, pour découvrir les totoras du lac Titicaca.
Exactement, on va remonter le temps, on part au XIIIe siècle et on va découvrir un peuple qui s'appelle les Uros, U-R-O-S, et qui vivent au bord du lac Titicaca. Alors, petite question, côté Bolivie ou Pérou, selon vous? Parce que le lac Titicaca...
Pérou.
Oh, Pérou,
je dirais Pérou. Parfait, vous êtes incollable en histoire, bien entendu, et en géographie.
Évidemment.
Alors, pour répondre un peu plus précisément, les Uros, ils vivent dans la baie de Puno, c'est côté Pérou, donc sur le lac Titicaca. Le Titicaca, c'est le plus haut lac du monde, 8300 km² à 3810 mètres d'altitude, donc il fait un peu frais quand on s'y baigne. C'est une espèce de mer intérieure. C'est le plus haut lac navigable au monde, entouré de légendes. Alors, on dit que c'est là que la civilisation Inca aurait vu le jour. On dit aussi qu'un trésor y serait englouti. Et oui, Cousteau a plongé pour aller voir s'il y avait quelque chose. Il n'a rien trouvé.
Ou alors il a gardé, il n'a rien dit.
Peut-être. Et peut-être qu'il est sur une de ces îles qu'on va découvrir aujourd'hui.
Et c'est bien là, sur le lac Titicaca côté Pérou, que se trouvent les îles Uros. On est sûr qu'elles sont bien là.
Eh bien oui, on est sûr. Elles sont là. Elles ont la particularité d'être faites donc en roseau qui se dit totora. et elles ont été créées, elles ont été façonnées, sculptées même par les Uros. Alors c'est un peuple qui luttait à l'origine contre les Incas. Ils ont survécu en se cachant justement sur leurs îles faites de roseaux, des îles artificielles, hein, grosso modo 3 mètres d'épaisseur. Il y a une base de tourbe et grâce à ce roseau résistant qui pousse le long des côtes. Et ils mangent la partie haute hein, de ce roseau. Ouais, ça se mange, c'est une partie blanche, c'est particulier à ce roseau-là, le totora. Et en fait, ça pousse.
Mais ils mangent pas leur maison quand même.
Non, ils mangent la partie haute du roseau, le reste du roseau de la plante et sert à se colmater et à faire une épaisseur assez épaisse de roseaux qui permettent de vivre sur ces îles.
Donc le sol, en fait, bon, ils sont sur l'eau, le sol n'est pas en terre, il est en roseau avec de la tourbe.
C'est ça, il y a une base de tourbe, il y a le roseau qui pousse et ça
ne se délite pas.
Non, en fait, tous les ans, tout le temps, ils n'arrêtent pas de recomposer. C'est des grosses masses de roseaux qui collent ensemble, qui colmatent et ça pousse tellement vite.
Toute la journée, ils font ça.
Toutes les journées, non.
Excusez-moi, mais ça a travaillé à plein temps, ils ont un métier à côté.
Bah, ils sont là, à la base, ils étaient là pour se sauver hein, des Incas, pour se protéger des Incas. Et donc, en effet, ils ont créé.
Ils ont du confort, quelque chose.
Oui, alors c'est un sol. Le sol est moelleux. Hein. Vous n'ayez crainte, vous allez pouvoir marcher dessus. C'est assez mou. Hein, ça,
mais il faut le pied marin quand même.
Non, ça bouge plus.
Le pied de la cuisse.
Le pied de la cuisse. Ça mouche. C'est assez doux. Hein. C'est smooth, comme on dit. Et ils ont des maisons en quoi? En roseau. Ce sont des huttes. Et ils ont des meubles en quoi? Eh ben en roseau aussi. Et ils ont. Alors, je vous rassure, ils ont quand même accès au confort moderne. Il y a des panneaux solaires qui leur permettent d'avoir un peu d'électricité. Ils ont même des fois, quand on passe auprès, il y a des radios qui tambourinent et qui mettent plein de musique. Peut-être qu'ils acceptent à Europe 1 aussi.
Ça doit être chiant quand même à Noël. Qu'est-ce que t'as? Oh, un roseau.
Qu'est-ce que tu veux? Et alors, vous savez quoi? Vous pouvez faire atelier roseau quand vous arrivez sur place pour faire des petites poupées en roseau quand vous passez du temps sur place.
Ils sont quelques-uns. Il existe beaucoup d'uros.
Eh ben, il reste environ...
Combien d'euros?
Il reste environ 2500 euros sur place. Ils sont dispersés sur une soixantaine d'îles artificielles. Hein, et ils vivent de la pêche, mais surtout aujourd'hui, ils vivent du tourisme.
C'est-à-dire du tourisme, parce qu'on va les visiter, c'est ça?
Exactement. On peut aller sur un des villages, une de ces îles. Sur chaque île, il y a des petites maisons qui vous accueillent et vous allez à l'intérieur et vivre avec eux la vie quotidienne de ces ouros.
Et comment ils se déplacent entre le continent et les îles?
C'est là que c'est encore plus fou que fou. C'est que, en fait, ils ont créé des radeaux en quoi?
En roseau.
En roseau. Et en fait, ces radeaux, ils ont des tronches, mais hallucinantes. Ils ont des têtes de monstres, de dragons. Ils sont juste à côté. Ils ont des têtes, il y en a qui ont des têtes d'animaux assez folles. Bref, c'est assez spectaculaire, c'est assez surréaliste, mais on peut monter sur ces bateaux, sur ces radeaux et aller visiter les îles artificielles.
C'est fou, c'est très écolo ça. On devrait peut-être proposer ça ici aussi.
Bah oui, tiens, pourquoi pas, pour aller circuler sur la Seine. Ouais. Ça vous irait bien, je trouve, Stéphane, pour venir jusqu'à Europe 1.
En tout cas, ça a perduré depuis le XIIIe siècle.
Exactement, c'est encore là.
C'est une folle histoire.
Mes aïeux, quelle époque.
Mes aïeux, quelle époque. Et puis ça existe toujours dans le présent.
C'est ça, et on peut aller les visiter. On
et
peut
ils y ont aller. Des urnes en roseau pour voter quand...
Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout du process. Je ne l'aurais pas demandé.
Tout est en roseau, les vêtements, tout.
Par contre, j'ai un petit atelier roseau, si vous voulez, après. On va le faire ensemble pour faire une petite poupée.
Merci, Gavin Clementer. Oui, de vous avoir emmené à la découverte du peuple uros et de son art de travailler le roseau.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavin Clementer-Ruiz, et avec vous, David Kessel-Lopez, on va remonter aux origines des bouchons d'oreilles.
On dit beaucoup de mal des yeux. Hein, les yeux, je sais pas quoi, tout ça. Mais les yeux, ça a un avantage immense, c'est qu'ils sont livrés avec des paupières qui permettent de les fermer sur commande. S'il y a devant vos yeux quelque chose que vous voulez pas voir, hop, vous fermez vos yeux et vous le voyez plus. Mais il n'y a pas de paupières d'oreilles. Vous pouvez pas fermer vos oreilles. Et donc, s'il y a un bruit désagréable auquel vous voulez vous soustraire, vous êtes obligé d'utiliser vos mains et de les plaquer sur vos oreilles. Sauf que si vous faites ça, et ben vos mains, elles sont prises. Et donc, vous pouvez plus rien faire. Ni travailler, ni vous faire un café, ni caresser le visage de l'être aimé. Heureusement, depuis la nuit des temps, les êtres humains ont trouvé des méthodes artificielles pour se boucher les oreilles tout en continuant à pouvoir utiliser leurs mains. L'un des premiers, si ce n'est le premier témoignage de bouchon d'oreille de l'histoire de l'humanité, c'est dans un épisode très célèbre de l'Odyssée d'Homère. Circé, la magicienne, elle conseille à Ulysse de mettre de la cire dans les oreilles de son équipage pour que ses compagnons ne soient pas attirés par le chant des sirènes. Mais l'inventeur moderne des bouchons d'oreilles, c'est arrivé un petit peu plus tard, c'était un Allemand qui s'appelait Maximilian Neckwehr. Il était pharmacien à Berlin et il s'est inspiré de l'histoire d'Ulysse pour commercialiser les premiers bouchons d'oreilles modernes en 1908. Il les a appelés Oropax. Or en allemand, ça veut dire oreille, et pax, c'est un mot latin qui veut dire la paix, donc Oropax, la paix des oreilles. C'est pas complètement étonnant que les bouchons d'oreilles soient apparus à ce moment-là, puisque c'était l'époque de l'industrialisation, de la mécanisation, de l'urbanisation et de plein d'autres trucs en Sion qui font du bruit. Mais l'invention de Max, elle a surtout eu du succès à cause du plus bruyant de tous les événements disponibles aux êtres humains, à savoir
la guerre.
La guerre, exactement. La guerre, ça fait du bruit. Alors en 1916, les boules Oropax de Max, elles ont été intégrées au matériel des soldats allemands de la Grande Guerre et elles ont pris leur essor à ce moment-là. Alors évidemment, il n'y a pas que du côté allemand que la guerre, ça fait du bruit partout, ça fait du bruit en France aussi. Et donc, côté français, il y a un autre pharmacien qui a mis au point l'équivalent des boules Oropax en France et qui se sont appelées les boules sourdines d'abord et puis les boules quies. Quies, c'est du latin encore, ça veut dire repos et ça a donné quiet en anglais et quiétude en français. Paf, fun fact érudit dans vos visages, c'est gratos. Jusque dans les années 70, les boules quies, elles ont été roulées à la main dans des ateliers par des femmes qu'on appelait les mouleuses. Les mouleuses ou les bouleuses d'ailleurs. Puis ça a été,
j'aimais bien les mouleuses.
Les mouleuses, voilà. Puis ça a été fabriqué par des machines à partir des années 90. Moi, qui suis un bobo qui aime bien les choses qui se font à la main et les manufactures, ça me rend un petit peu triste. C'est moins bien quand il y a des machines, vous voyez. Il y a des alternatives aujourd'hui à la cire. Et en particulier ce qu'on appelle la mousse à mémoire de forme, qui est un mot que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est ces boules qui sont coniques, vous voyez, et que vous compressez entre vos doigts, vous les insérez dans vos oreilles, et une fois dans vos oreilles, elles cherchent à reprendre leur forme initiale, et elles épousent donc tous les recoins de cette cavité compliquée que vous avez à l'intérieur des oreilles. Et elles marchent mieux que les autres, puisqu'elles réduisent le bruit de 35 décibels, nous dit l'entreprise Quies, hein, je ne sais pas s'il faut les croire sur parole, contre seulement 27 décibels pour les boules en cire classique. Alors 8 décibels de différence, ça peut paraître assez peu comme différence, mais vous le savez sans doute Stéphane, Jean-Luc, Gavins, que l'échelle du bruit, c'est une échelle un petit peu particulière, c'est une échelle logarithmique. 3 décibels de plus, ça veut dire que le bruit est 2 fois plus fort. Donc un bruit de 35 décibels, c'est pratiquement 10 fois plus fort qu'un bruit de 27 décibels. Maintenant, il y a encore mieux que tout ça, il y a les bouchons d'oreilles actifs qui écoutent le bruit ambiant de l'endroit où vous vous trouvez et qui vous envoient dans les oreilles l'opposé de ces bruits et qui donc les annulent. Et c'est encore plus performant que les boules quies à mémoire de forme. Donc, en gros, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les paupières d'oreilles, ça existe.
Ben, merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver d'ailleurs toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec 3 nouveaux personnages qui ont créé une princesse de toutes pièces. Madame de Lafayette, qui a imaginé sa célèbre princesse de Clèves, et vous verrez qu'elle n'était pas seule pour lui donner vie. Puis Hans Christian Andersen et ses célèbres contes, dont la princesse au petit pois. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une princesse autoproclamée.
Oui, Erika a créé, d'après vous, princesse Erika.
Ah, oui.
Elle est presque, elle, à une différence près. Elle chante des tubes qui ont fait son succès.
Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà.
Allez, pas trop de blabla, on parle de tout ça demain. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.